Laudetur Jesus Christus.
Nouvelle manifestation en Algérie, un an après les premiers pas de ce mouvement de protestation inédit contre le maintien au pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika. Monseigneur Paul Defarge, l'archevêque d'Alger, revient sur cette contestation populaire qui a créé une nouvelle dynamique dans la société algérienne. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays européens sont depuis hier à Bruxelles. Un sommet extraordinaire pour s'entendre sur un budget de fonctionnement de l'UE pour les années 2021-2028. Éclairage dans quelques instants. Au sommaire également, la dissolution en Thaïlande d'un parti d'opposition arrivé en troisième position lors des dernières élections. Et puis nous reviendrons sur les fruits de la rencontre il y a un an sur la protection des mineurs. Vous entendrez le père Joulin, missionnaire d'Afrique et psychothérapeute spécialisé dans le traitement des agressions sexuelles sur mineurs.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour, les Algériens sont à nouveau dans les rues ce vendredi. Il y a un an, ils inauguraient le IRAK, mouvement social de contestation inédit. Leur revendication principale était le départ du président Abdelaziz Bouteflika, qui était alors candidat à un cinquième mandat. Depuis, Abdelmadjid Tebboune lui a succédé à la tête de l'État, promettant un changement radical. Mais les manifestants restent mobilisés, réclamant la fin d'un système politique et économique à bout de souffle. Si la situation de l'appareil d'État algérien demeure ambigu avec un verrouillage persistant des cercles de décision par l'armée, la nature pacifique du mouvement de contestation est révélatrice d'une profonde évolution des mentalités en Algérie. Interrogé depuis Paris, où il participe cette semaine au sommet des évêques de la Méditerranée, l'archevêque d'Alger, Mgr Paul Defarge, nous livre son regard sur ce mouvement.
En même temps que nous finissions la béatification, a commencé en Algérie ce mouvement d'un peuple qui tout d'un coup, s'est levé, s'est dressé en disant « Non, on ne veut pas vivre comme un peuple d'assister, on veut prendre notre vie en main. » Et ça n'a pas dérapé, ça n'a pas dérapé. C'est assez extraordinaire. Moi, quelqu'un un jour m'a dit « Mais est-ce qu'il y a un lien entre les béatifications ?» Je dis « Non, enfin, je vois pas quel lien. » Mais peut-être qu'il y a un lien mystérieux et obscur de l'amour du peuple algérien, un peuple pacifique, un peuple hospitalier, un peuple accueillant. Et pendant un an, ils viennent de le montrer et nous sommes dans l'attente. Nous pouvons donner du temps pour que se recherche comment politiquement cela va se mettre en place. Notre Église d'Algérie est heureuse d'être servante, accompagnatrice de ce travail de l'Esprit-Saint, parce que c'est l'Esprit-Saint qui fait ça. Plus de justice et de fraternité, peut-être plus de citoyenneté. C'est un thème qui travaille notre Algérie, mais j'en parlais avec mes frères irakiens, libanais ici, et ces jours-ci, c'est pareil, la citoyenneté. C'est le chemin qui nous mènera vers la paix, finalement. Un vivre ensemble différent, mais en paix.
Des propos recueillis par Cyprien Viette. Le président turc Recep Tayyip Erdogan met en garde contre une catastrophe humanitaire dans la province syrienne d'Idleb. Lors d'un échange téléphonique avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, il a appelé à des actions concrètes. Les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet à Bruxelles ont appelé à la fin de l'offensive militaire menée par l'armée syrienne soutenue par son allié russe dans le nord-ouest de la Syrie. Une offensive qu'ils ont qualifiée d'inacceptable. Sur la table des chefs d'État et de gouvernement des 27, depuis hier à Bruxelles, le budget de fonctionnement de l'UE pour les années 2021-2028. On parle de plus de 100 milliards d'euros. Hier, tour à tour, les dirigeants ont fait connaître leur position avant de se retrouver ce matin pour poursuivre les discussions. Les précisions de Marie Duhamel.
Il faut trouver un compromis sur le niveau global du budget, mais aussi sur la répartition de l'argent entre les différentes politiques européennes. Certains, comme le président français, se sont dit prêts à négocier des jours entiers, d'autres jugent inévitable la tenue d'un second sommet. Dès hier, en effet, les pays membres ont affiché leurs divergences. Le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, l'Autriche veulent un budget limité à 1% du revenu national brut de l'UE. Le président du Conseil et chef des négociations, Charles Michel, tablait lui sur 1,074%. Comme ces pays, l'Allemagne veut plus de financement pour la recherche, la défense ou la protection des frontières. Berlin, en tant que premier contributeur, exige aussi plus d'équilibre entre les pays qui paient plus qu'ils ne reçoivent de subventions. Deux politiques sont par ailleurs menacées de coupes à hauteur d'une centaine de milliards d'euros, la politique agricole commune que la France et l'Espagne veulent coûte que coûte défendre et la politique de cohésion qu'il n'est pas question de raboter pour une quinzaine de pays du Sud et de l'Est qui bénéficient de cette aide accordée aux régions les plus défavorisées. Enfin, la France veut supprimer les rabais accordés à 5 pays européens, en cause le Brexit, le Royaume-Uni qui versait jadis entre 60 et 75 milliards d'euros sur 7 ans.
Marie Duhamel. Berlin renforce les mesures de sécurité après l'attentat de Hanau. Le gouvernement allemand a annoncé ce matin plus de surveillance policière, notamment autour des mosquées, face à une menace d'extrême droite très élevée. Au lendemain de rassemblements, en mémoire des 9 victimes de la double fusillade organisée dans une cinquantaine de villes allemandes, la polémique enfle sur les armes, la protection des minorités et le rôle du parti d'extrême droite AfD. En Thaïlande, le parti d'opposition Future Forward, qui avait créé la surprise en arrivant en troisième position lors des dernières élections, a été dissous par la Cour constitutionnelle pour financement illégal. Son fondateur, le jeune Thanathorn, écope d'une interdiction d'exercer toute activité politique pour une durée de 10 ans. Les explications depuis Bangkok d'Olivier Cougar.
La Cour constitutionnelle de Bangkok a rendu un verdict très sévère. Future Forward a été dissous pour financement illégal. Concrètement, le parti d'opposition à la junte militaire est accusé d'avoir contracté un prêt licite de plus de 5 millions d'euros pour financer sa dernière campagne électorale. De l'argent en provenant de la fortune personnelle du jeune Thanathorn, le fondateur multimillionnaire du parti. Plusieurs dirigeants de Future Forward, dont Thanathorn, écopent de la peine maximale, l'interdiction d'exercer toute activité politique pour une durée de 10 ans. Depuis plusieurs mois, Future Forward et Thanathorn subissaient des attaques régulières de la part des autorités judiciaires thaïlandaises. Ce verdict est un sérieux coup d'arrêt pour l'opposition, qui n'entend pas pour autant baisser les bras. Un nouveau parti politique, créé sur les cendres de Future Forward, pourrait très vite voir le jour avec une nouvelle équipe dirigeante. De son côté, Thanathorn pourrait choisir de continuer à défendre ses idées dans la rue, en dehors du Parlement. Une stratégie risquée. Jusqu'à présent, les sympathisants de Future Forward ont toujours manifesté leur opposition à la junte militaire de façon pacifique. Mais ce verdict pourrait attiser des tensions parmi les 6 millions d'électeurs qui ont choisi Future Forward aux dernières élections. Bangkok, Olivier Cougar pour Radio Vatican.
Le coronavirus continue de s'étendre. L'épidémie vient de toucher un nouveau pays, Israël. Un passager qui se trouvait à bord du paquebot Diamond Princess au large de Tokyo est contaminé. Il avait été rapatrié cette semaine. En Corée du Sud, le nombre de personnes infectées par le Covid-19 s'élève désormais à 200. La moitié sont liées à une secte d'une métropole du sud du pays. L'Iran a pour sa part annoncé aujourd'hui la mort de 2 malades. Au total, 75 000 personnes ont été contaminées en Chine continentale. L'épidémie a fait 2200 morts. Pékin a annoncé ce matin les premiers essais de vaccins sur l'homme prévus fin avril. Le 21 février 2019, les responsables des conférences épiscopales du monde entier se réunissaient au Vatican pour une grande conférence consacrée à la protection des mineurs et à la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. 4 jours de rencontres en présence de victimes d'abus. Le père Stéphane Joulin, missionnaire d'Afrique et psychothérapeute depuis plusieurs années, il anime des formations auprès de diocèses ou communautés de nombreux pays pour mieux lutter contre les abus. Il revient sur le chemin parcouru depuis la rencontre de Rome, soulignant l'importance de la formation.
Il y a eu d'abord tout un temps pour digérer un peu tout ce qui avait été entendu, partagé à cette rencontre au Vatican et peser les conséquences que cela pouvait avoir pour les différentes conférences épiscopales à travers le monde. Alors donc on a eu un temps un petit peu de silence là pendant quelques temps et puis depuis quelques mois on voit que les conférences épiscopales se sont ressaisies du sujet et commencent à édicter des décrets dans différents diocèses, mettre en place des bureaux. Donc, on sent que là, on est maintenant dans la partie, on se met au travail, on y va, quoi.
Il fallait digérer avant vraiment la mise en place des processus.
Oui, parce que c'est vraiment une invitation qui avait été faite par le pape François à ce que toute l'Église, dans son ensemble, à l'échelle de la planète, bouge dans la même direction. Et on est bien conscient, les différentes cultures, les différentes histoires des Églises particulières font que toutes ces conférences n'étaient pas rendues au même état de réflexion sur le sujet. Donc, il faut du temps pour pouvoir. Mais on sent que là, maintenant, ça commence.
Le père Stéphane Joulin, interrogé par Olivier Bonnel. Et avant de clore cette édition, sachez que les Iraniens ont pris ce matin le chemin des urnes. 58 millions d'électeurs sont appelés à élire un nouveau parlement. Les conservateurs sont donnés favoris. La disqualification de milliers de candidats réformateurs et modérés réduit le scrutin à un affrontement entre conservateurs et ultra-conservateurs. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute. On se retrouve à 18h. Très bel après-midi. Au revoir.